Bienvenue sur LYFM 93.1, je suis Card, l'homme du 92, vous écoutez Championne, votre émission sur le sport féminin. Nous découvrirons ou redécouvrirons une légende de sa discipline et ce soir on va parler patin. Et non pas celui auquel vous pensez, non, on va parler patin à glace, patinoire, double axel, triple lutz, on va parler patinage artistique, grâce sur glace, avec un portrait de la championne Cocorico, Souria Bonali. Nous causerons donc de programmes d'arabesque, de salto et j'en passe. Et enfin nous parlerons de discrimination dans le sport, mise à l'écart ou mixité, qui choisir? Ça va Sandrine?
Ça va.
Ah, musique. Rebonjour à tous, vous êtes bien dans l'émission Championne, on va donc parler de patinage et j'ai avec moi l'excellente, l'inénarrable, l'extraordinaire, la magnifique Sandrine. Ça va Sandrine?
Ouais, t'as oublié sublime, mais bon, je passerai pour cette fois-ci.
Ok, ça commence. C'est bien, moi qui pensais que t'avais peu de confiance sur le trajet, alors on est bien.
J'en ai pas, je te rassure, c'est juste je fais semblant, mais...
Ah d'accord, ok. Et donc effectivement, on va parler de Y, de Petit Aigle, de Juge, de Skating. Et ouais, et c'est pas du skate, c'est parce qu'en fait je suis parti vérifier, mais en anglais... Tu sais ce que ça veut dire, skate?
Un truc à roulette? Planche à roulette?
Patin.
Skate, ça veut dire patin?
Bah ouais.
Ok.
Ouais, patin.
Donc quand on dit on va faire du skate, ça veut dire on va faire du patin, en fait?
Je sais pas comment le skate est devenu le dérivé de ça, mais en tout cas, c'est le terme officiel pour le patinage. Je trouve ça complètement ouf, d'ailleurs. Mais d'abord, auto-promo, évidemment. On va parler très rapidement, un petit coup d'éclair sur l'émission Jazzland que vous pouvez retrouver sur l'antenne d'Allegre FM de 17h à 18h tous les samedis. Émission qui parle de jazz. C'est animé par deux explorateurs infatigables, Jean-Marc Gélin et Yonel Eskanazi. Jazzland va vous faire découvrir l'actualité des terres de jazz connues, inconnues, avec des invités, ça parle musique. Le dernier épisode est sur Saint-Germain-des-Prés. Autrement dit, là, si ce n'est une des plus grandes références historiques du jazz dans la capitale. Et si vous êtes coincé en train de faire des courses ou préparer l'apéro, c'est pas grave. Vous pouvez le trouver en replay sur la page de la radio. Tapez sur Google AYFM podcast et cherchez l'émission. D'ailleurs... Il y en a une qui est vachement bien, qui s'appelle Championne.
Ouais, elle est top.
Elle est bien.
Je te la recommande d'ailleurs.
Oh merci, c'est gentil, vraiment. Je suis très content que tu le dises. D'ailleurs, on m'informe dans l'oreillette que l'épisode 9 sur le vélo est en ligne. Vive le polo vélo. Si vous avez écouté cette émission, c'est une discipline qui existe, ce n'est pas une vanne. On peut faire du polo à vélo. Alors, on va prendre un petit instant, évidemment. Alors, comment ça va cette semaine, Sandrine?
Ça va, je suis en vacances, donc ça va.
Ah, t'es en vacances?
Ouais.
Bah, c'est bien ça.
Ouais, c'est cool.
Alors, qu'est-ce que tu fais, du sport pendant les vacances?
Je fais du kiné, ça peut être associé à du sport, mais pour le coup, de la natation.
Ah, natation évidemment, n'hésitez pas à écouter le magnifique épisode de Laure Maledoux. Alors, je suis très content que tu reviennes au micro d'ailleurs, ça c'est cool. Donc pour les gens qui nous écoutent, eh bien sachez que de temps en temps, on changera les intervenants pour varier le rythme. Et comme ça, vous ne serez pas toujours coincé que avec moi. Voilà.
Si ça pour le coup, ça sera toujours avec toi, c'est normal.
Ah bon?
Oui, nous on est juste des invités, toi tu ne peux pas changer, et tant mieux.
Oh, c'est... Autopromo. Évidemment à la régie, comme d'habitude, Diego Armando Maradona nous accompagne, ça c'est très très bien. Et avant de continuer l'émission, évidemment, le courrier des lecteurs. Alors merci Sandrine, tu es là en vrai, pour une fois, ici, on peut le dire enfin.
J'ai pas pu faire long travail, je suis désolée.
Alors si, tu as réussi sur 153 messages, tu as réussi à enlever 151 spams, c'est très gentil
alors,
de ta part.
Ça devait pas être moi pour le coup, parce que je peux pas être là et en même temps faire le courrier. Je suis multitâche, d'accord, mais pas à ce point-là.
Fais comme la marmotte, le chocolat. C'est pareil pour le courrier.
Ok, si tu veux.
Alors du coup, un premier tweet de monsieur, un message, pardon, de monsieur Train75, un fidèle auditeur. Alors, avez-vous vu le retour sur internet de l'événement d'il y a 10 ans, oui, où monsieur Burger a épousé madame King, et le, bon, vraiment pour deux en plus, et le mariage a été sponsorisé par le célèbre fast-food. Il n'y a que les Américains pour faire ça. Alors merci de cette question pertinente, Mr. Train75, qui illustre comment les Américains sont arrivés à leur situation actuellement. Alors, pour rappel, Sandrine, quand elle a entendu cette info, elle a dit « c'est vieux ça ».
Oui, c'est vrai.
C'est 2015, je crois.
Ouais, ouais, c'est vieux. Je l'avais déjà entendu il y a longtemps. Et d'ailleurs, Burger King a payé leur mariage.
Ouais, ils en sont sponsorisés. Du coup, nous, comme on est français, j'ai pensé à plusieurs idées. Alors, vous pouvez jouer chez vous là pendant un instant. Alors, évidemment, vous avez essayé de deviner la marque. Toi aussi, les gens dans la régie peuvent, il n'y a aucun problème. Si Patrick Ness et Jacqueline Café se marient pour un mariage tonique.
Le gin tonic?
Patrick Ness, Jacqueline Café.
Café, café, Nes, les trucs de capsule là, je sais pas
Nes
quoi.
Nes café.
Ouais.
Oh, je suis nul en vanne apparemment. Gaston Lay et Amandine Go pour un mariage constructif.
Amandine Go.
Oui.
Et Monsieur Lay.
Ouais.
Lego.
Oui, très bien, bravo. Et enfin, un petit dernier. Si Albert Chat et Charline Nel pour un mariage classe.
Nel, et le premier, c'est quoi?
Albert Chat.
Chanel.
Oh, oh. Extraordinaire, merci. Et évidemment, dernier message. Nous avons un message de Monsieur Eric Z qui dit, je cite, « Votre émission est sympathique, mais l'animateur est vraiment, vraiment perturbant avec sa voix. » Alors, je vais répondre à Monsieur Eric Z. Sachez que le courrier des lecteurs, c'est moi qui l'écris. Donc, Eric Z, vous n'existez pas. Donc, je fais ce que je veux, avec le peu de cheveux qui me reste. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Faites semblant d'applaudir. Et maintenant, on va parler patinage.
Tu veux que j'applaudisse?
Oui. Ah, oh, merci, c'est très gentil. Vraiment, bravo. Alors, du coup, pour le patinage, eh bien, on va rappeler ce magnifique sport. Déjà, est-ce que tu as déjà regardé du patinage artistique?
Ah oui, oui. J'adorais ça. Ouais. Enfin, quand je dis j'adorais, je parle au passé parce que j'ai l'impression qu'on en passe moins maintenant à la télé en grande écoute, enfin sur la chaîne. Cela dit, j'avoue, je regarde pas trop la télé, mais je pensais que, enfin, je trouve que ça passait un peu plus avant. Mm-hmm. Et du coup, bah à cette époque-là, il y avait vraiment en France, on avait des bons patineurs, que ce soit féminin ou masculin. Et du coup, je trouvais ça hyper joli à regarder. Mm-hmm. Et enfin, c'est impressionnant ce qu'ils font. Moi, tu me mets sur des patins, je finis comme Bambi, tu sais, avec les quatre pattes.
Très bonne ref.
Donc du coup, non, je trouvais ça très impressionnant, très joli et très impressionnant.
Moi pareil, Souria Bonali dont on va parler ce soir, Philippe Candeloro déguisé en Lucky Luke, déguisé en D'Artagnan, déguisé pour le parrain, déguisé en Braveheart.
Même les couples, hein, quand tu fais les danses de couple, je trouve ça hyper joli. Quand tu sais qu'en fait, ils ont sous les patins, il y a des lames et que c'est hyper dangereux, je trouve ça vraiment très impressionnant.
Et donc du coup, oui, il faut savoir que c'est France Télévisions qui a les droits, comme à l'époque, ça passait sur France 3.
C'est toujours le cas ?
Toujours le cas, France Télévisions a les droits qui diffusent l'intégralité du patinage artistique en partenariat avec Eurosport. Mais vous pouvez regarder ce sport gratuitement parce que c'est France Télévisions. Et si c'est Eurosport, de toute façon, c'est dans des bouquets Canal+ ou Prime Vidéo. Donc Eurosport n'est pas très difficile à obtenir. Ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder du patinage à la télé. Ça au moins, par rapport à d'autres sports aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool.
Oui, c'est vrai.
Mais en même temps, c'est un sport qui n'est pas extrêmement médiatisé. Et je peux vous assurer que j'ai pas du tout réussi à trouver les droits. Le prix des droits du patinage. J'ai trouvé un truc qui disait 450 000 euros, mais c'est pas vraiment fiable. Donc aujourd'hui...
Les droits de retransmission.
Exactement, combien ça coûte. Très difficile d'obtenir l'information, pour le coup. Mais en tout cas, c'est cool. Et d'ailleurs, il y avait les championnats du monde de patinage du 27 au 30 mars à Boston, en direct sur France Télé. Donc c'est quelque chose qui est assez ironique, puisque c'est un sport qui est à la fois accessible, mais peu mis en avant. Tu vois, je ne savais pas qu'il y a eu les championnats du monde au mois de mars, tu vois.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un sport, je pense, qui est rentré dans les foyers de beaucoup de Français depuis tellement de temps. Et je pense sincèrement que les droits, ils ne doivent pas être excessifs, parce que justement, c'était présent à la télé.
Oui.
Donc, contrairement à d'autres sports. Donc
qui sont devenus très difficiles à avoir en gratuit, comme le foot, la NBA, je pense pas, c'est des meilleurs, quoi. Eh bien, on va continuer de parler patins. Eh bien, Sandrine, d'où ça vient le patinage artistique?
J'en ai pas la moindre idée.
C'est très bien.
Du cirque, peut-être?
Non, même pas. Le patinage artistique est un sport et une discipline artistique exécutée sur glace, synthétique, artificielle ou naturelle, qui développe les qualités physiques et la sensibilité artistique. Il se pratique avec des patins à glace, parce que c'est vachement mieux de faire du patinage artistique quand t'as des patins.
Quand même, c'est plus pratique. Je te l'accorde.
Ce sport est particulièrement populaire en Amérique du Nord. Nos amis canadiens en savent quelque chose. En Europe de l'Est, par exemple avec la Russie. En Asie aussi, notamment au Japon. Au Japon, c'est très prisé. Et c'est vrai en plus. Parce que maintenant, j'ai le souvenir que dans certains animés, le patin à glace était pris très au sérieux.
C'est gracieux, ça doit être pour ça.
Exactement. Le mot patin vient du grec ancien patéo, marcher. Et le mot anglais skate, on l'a dit, vient du néerlandais schals, qui veut dire os de la jambe.
Je voudrais bien que tu me redises le mot.
Schals ? C'était plus allemand que néerlandais. Hein.
Ouais. D'accord, ouais, bon. En même temps, le néerlandais, j'avoue, je ne suis pas capable de le reconnaître. Mais bon.
Alors, il faut savoir que le patinage artistique devient une distraction pour l'aristocratie européenne vers le 19e siècle. Les personnes dites nobles, Donc déjà, on a une classification de ce sport, hein, c'est pas les paysans qui font ça. Aimer se promener sur les lacs gelés, les canaux de Versailles ou même l'étang de la glacière à Gentilly, situé en Île-de-France. Et je prends cette voie maintenant. Ce sport a connu une première évolution en 1850.
Les canaux de Versailles.
Ouais, à faire. À l'époque, il y avait un vrai hiver.
Ouais, ouais, d'accord, mais ça devait être. Pas n'importe qui, Jack, avait accès à cette zone pour pouvoir en faire.
Ouais, clairement, ça devait être fou. Donc, le sport a connu une première révolution en 1850 grâce à Edward Bushnell, qui invente les premiers patins à lame d'acier, comme tu le disais, qui sont très coupantes, c'est avec de l'acier qu'on fait du patin à glace. En 1860, Jackson Haines, un maître de ballet américain, intègre des éléments de danse classique dans ce sport. L'aristocratie est conquise dès lors par le patinage. Excusez-moi, je la refais. L'aristocratie est conquise par le patinage. J'essaie Stéphane Bern, mais je ne suis pas sûr de l'avoir.
Non mais Stéphane Bern, personne ne peut le... Il est tellement authentique.
Sous la pression des Scandinaves, Pierre de Coubertin, Cocorico, accepte l'intégration du patinage artistique dans les disciplines olympiques. Ce sera intégré à partir de 1908 à Londres. Donc c'est un sport olympique très vieux, un des premiers. Pour rappel, l'ISU, donc l'Union Internationale de Patinage, ou en version originale International Skating Union, fondée en 1892, donc aussi vieil adage, hein, a vraiment... J'ai plein de dates, mais j'ai un truc qui était très drôle en anecdote que je voulais absolument parler avec toi, parce que ça m'a fait rire. La première édition des championnats de Grande-Bretagne, c'est en 1879, donc on voit vraiment qu'il y a une organisation qui travaille. 1892, on a donc la fédération. En 1896, c'est la première édition des championnats du monde de patinage artistique à Saint-Pétersbourg.
Ouais.
Donc 1896, c'est... Wow.
C'était pas hier.
Ça date. On a en 1902. Alors on arrive sur l'anecdote. Là, j'attends le moment de l'anecdote. En 1902, en l'absence de clause excluant les femmes, première participation au championnat du monde, des femmes se mettent dans la compète. Elles rentrent comme ça. Elles disaient le règlement, il a dit, on a le droit, il y a pas. Les mecs, ils ont fait bah, voilà.
On n'a pas parlé du terrus cette fois-ci.
Et bim, elles ont fait du patinage en compète. Ça a tellement énervé la Fédé, c'est une histoire vraie, qu'elle excluait les femmes de leur organisme pour faire un championnat féminin à part séparé. Et ça arrive, genre, l'année suivante. Ils ont pris tellement le seum.
Ah, c'est bien, parce qu'ils ne leur ont pas interdit. Ils leur ont donné un championnat à eux.
Exactement. Et ça, je trouve ça assez fou comme anecdote, c'est-à-dire qu'elles sont venues pirater le sport. Elles ont dit, bah, il n'y a pas de règles. Bah, on vient. Voilà.
Bah, elles ont raison.
Bah, c'est à nous. Du coup, effectivement, le championnat féminin, lui, il date de cette année-là, 1903. On a l'organisation de la première épreuve féminine aux championnats du monde en 1906. Les couples apparaissent en compétition au début 1908 pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a vraiment plein de choses. Ça, c'est cool. La danse sur glace arrive en 1950, officiellement au championnat de Londres. Et après, effectivement, depuis le scandale de la compétition en couple des Jeux Olympiques de Salt Lake City, véridique, où ils ont attribué deux médailles d'or pour la première fois de l'histoire du patinage et la seule fois au couple canadien et au couple russe, cet événement accélère la mise en place d'un nouveau système de points, parce qu'avant les points, on le verra tout à l'heure, ils sont comptés différemment, et là en fait comme ils ont été égalité, ils ont eu tous les deux une médaille, ils ont dit ah non, on arrête ce système de points.
C'est pas possible.
Non, quand même. Alors, y a plusieurs compétitions majeures, donc il y a le Grand Prix de l'ISU, de la Fédération Internationale, les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, c'est vraiment les grands rendez-vous. Toi, tu regardes plutôt championnat... Ouais,
Je sais pas du tout. Je pourrais pas te dire quel type de championnat j'ai regardé. Il y avait du patinage qui passait à la télévision. Mmh. Certes, c'était une compétition, mais je pourrais pas te spécifier laquelle c'était, parce que sincèrement, je faisais pas attention.
Ouais, bah moi en fait, c'est aux Jeux Olympiques d'hiver qu'ils existent. Donc Lillehammer, ça m'a dit quelque chose quand je suis parti chercher, mais en fait, je suis comme toi. Les anneaux olympiques, je les ai vus parce que j'ai cherché. Sinon, quand il y avait du patinage, je ne me posais pas la question c'était quand.
Moi, j'étais contente de voir du patinage à la télé et je ne faisais pas du tout attention à quel. C'était par rapport à quelle compétition. Enfin, vraiment. Après, en même temps, j'étais enfant, donc ce n'est pas des choses qui me.
Oh, t'étais enfant, c'était hier.
Non, mais. Non, je ne faisais pas attention. Et c'est vrai que pour le coup, c'était. J'y avais le moment des notes ou tout ça, tu voyais qu'ils étaient notés, donc potentiellement, c'était une compétition. Il y avait, je me souviens, quelques podiums, mais je ne pourrais pas te dire pour quelle compétition c'était. Puis ouais. C'était pas vraiment mis en avant. Enfin...
Et on est d'accord que t'as plus regardé le patinage parce qu'en fait, bah, y avait des Français, donc on en parlait. Moi, c'est ça. Hein. S'il n'y avait pas eu Candeloro et Souria Bonaly, j'aurais jamais regardé le patinage. Hein.
Ah non, moi, je regardais même avant que...
Ah ouais,
ouais, je ne la regardais pas spécialement pour ces deux personnes-là. Je regardais parce que j'aimais la discipline. je trouvais ça gracieux, je trouvais ça joli et je trouvais ça féerique. Enfin, ça me faisait beaucoup penser à quelque chose d'un peu de conte de fées, de choses un peu... Ouais, je trouvais ça très joli à regarder, donc non. Après, oui, j'ai apprécié regarder les programmes de ces deux personnes-là parce que bah, du coup, ils avaient quelque chose en plus. Et pour le coup, ils étaient français. Mais non, je regardais vraiment parce que j'aimais la discipline.
Bah écoute, ça me fait plaisir de le savoir.
Non, c'est cool, mais je trouve non, ça... Non, vraiment, c'est bien. Je trouve ça vraiment sympa à regarder.
C'est souvent quand t'es enfant que tu regardes certains sports que ça te donne de la magie et que t'as envie de le suivre plus tard quand t'es adulte. Donc là, littéralement, comme c'est très gracieux, c'est hyper, hyper intéressant, hyper rythmé. Ouais, je comprends que...
Oui, parce que ça allait plusieurs choses. T'avais à la fois le côté de la musique qui était choisie, les mouvements qu'ils allaient faire, la partie du saut qui est très impressionnante. Quand t'es enfant et tu vois ça, tu dis waouh.
Ouais, quand ils font des triples vrilles, en fait.
Et puis le mouvement, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait, ils tournent sur eux-mêmes et d'un seul coup, ils tournent tellement vite qu'en fait, ça fait une espèce de toupie. Et quand t'es gamin, tu vois ça, je trouve ça vraiment très joli. Hommes ou femmes confondus, les couples, c'était encore, je trouve, un step au-dessus parce que du coup, il lance carrément sa partenaire. Ouais, genre, comme un big bokeh, tu sais, à mon dieu, t'arrives au bout et elle part et elle tourne. Je trouvais ça hyper impressionnant et ça me faisait beaucoup penser à la fois à un côté un peu du cirque, parce que c'était des gymnastes, clairement. Cirque, gymnastique, tout ça sur le fond de glace avec des beaux costumes, des bien maquillés et sur de la glace. Donc, hyper le bruit de la glace qui frémit avec les patins. C'est vraiment. Non, franchement, tout ça fait que. Je trouvais ça hyper joli.
Eh ben, franchement, je suis assez d'accord, parce que moi aussi, j'étais très impressionné des vrilles, triple loot, triple axel. Bon, là, je fais genre, mais en fait, c'est juste qu'ils tournent sur eux-mêmes en l'air. Ils font des boucles.
Je serais capable de faire la différence entre il a fait trois quarts, il a fait un quart, il a fait... Non.
Alors que les juges, pour eux, c'est méga important. Le système de points a changé. Avant, effectivement, ils notaient sur une note sur 6, l'artistique et le technique. Et aujourd'hui, en fait, ils ont le programme qui est annoncé un peu comme en gymnastique. Et chaque figure, par exemple l'axel, etc., a un nombre de points défini si t'en fais un, et un nombre de points si t'en fais un double, un triple ou un quadruple.
Oui, mais je crois que c'est un peu comme la gymnastique, comme on avait parlé la dernière fois. Je pense qu'à la base, t'as déjà, comme dans la gym, t'as des figures imposées.
Ouais, c'est ça.
Et après, soit tu mets un demi-tour en plus, soit tu mets un tour en plus, ce qui fait que ça monte la note pas en artistique, c'est quoi l'autre ?
Technique.
Technique. Mais ils ont des figures imposées, déjà à la base.
C'est ça, mais c'est surtout qu'en fait, ce qui est très différent par rapport à avant, c'est qu'avant, tu avais la note sur 6, mais tu n'avais pas, tu vois, c'était à l'appréciation du juge.
Oui.
Là, maintenant, ils ont fait vraiment un système comme ça. Du coup, eh ben, on va se faire une petite pause musicale, hein, c'est le moment. Alors, c'est moi qui ai choisi le morceau. Après, on va revenir sur, effectivement, la fameuse question que tout le monde se pose, combien il y a de licenciés en France en patinage ?
Parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
On va en parler juste après. Musique, maestro.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à nouveau, auditrices, auditeurs. Je suis toujours Kad, l'homme du 92. Nous sommes toujours sur Aligre FM 93.1. Vous êtes bien dans l'émission championne qui traite du sport féminin. Nous sommes toujours avec Sandrine, dit la cinquième sœur Eliwell, le pouvoir des trois. Oui, vous avez la ref chez vous, je le sais. Et vous vous dites, pourquoi un prénom avec un P s'appelle Sandrine? Ne posez pas de questions.
Parce que je suis une sorcière, c'est ça?
Peut-être. Je pensais plus à ton animal totem, mais pourquoi pas?
Oh, ok, d'accord. Non, j'avais pas compris. Ok.
Et on vous laisse en suspens quel est son animal totem pour la prochaine fois. Alors, nous sommes toujours accompagnés par la régie avec Diego Armando Maradona, bien sûr. On vient d'écouter Black Betty de Ram Jam, le morceau de 1993, qui lui-même est un remix, et vous n'écouterez plus jamais ce son pareil, car je vais vous dire avec effectivement ce qu'il signifie. Eh bien, Black Betty, ayant plusieurs significations historiques, est d'abord un chant afro-américain pendant l'esclavage. Et le Black Betty, c'est le fouet. Bam, blam, tch. Ah, c'est aussi quand ils étaient en fuite et qu'ils arrivaient à taper la fuite, le Black Betty, c'est le fusil aussi du maître esclave. Bam, blam, voilà. Et vous avez enfin une autre signification qui arrive plutôt dans les années 70, où Black Betty, c'est de la drogue.
D'accord.
L'héroïne en particulier, parce que l'héroïne est brune, et c'est aussi le whisky dans les années plutôt 50. Donc en fait, effectivement, cette chanson a une vie très longue. Mais maintenant que vous savez sa signification, je pense qu'à mon avis, vous ne l'écouterez plus pareil.
Alors, j'ai faire plus attention au contenu, en tout cas.
Ah, voilà.
Ouais.
c'est moins entraînant d'un coup, tu vois. Alors maintenant, on va parler plus en profondeur de notre légende du sport, Souria Bonali, dit la reine sans couronne, née le 15 décembre 1973 à Nice, qui est une patineuse artistique française naturalisée américaine depuis 2004. Mais avant, la question que tout le monde se pose, combien y a-t-il de licenciés?
La fameuse
question. Combien y a-t-il de licenciés dans le patinage artistique en France?
En France?
En France, bah oui.
Pas en région parisienne, en France?
Non, en France.
Il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Non, il n'y en a pas énormément.
De licenciés? Je sais pas, je dirais peut-être sur toute la France, peut-être 100 000, 150 000.
28 021.
Oula.
Voilà. Combien de clubs?
Bah, vu que le chiffre que tu m'as donné, c'est pas beaucoup. Il y a peut-être 10 clubs, 15 clubs.
Oh, t'abuses.
50 clubs.
Voilà, c'est déjà mieux. 160 clubs avec 2000 établissements affiliés à la fédération. Mais il est dit que les gens qui pratiquent le patin à glace en mode loisir, par exemple, de temps en temps par an. Il y a 11 millions de personnes en France qui font du patinage de temps en temps comme ça, tu sais, à la kermesse, au truc, au petit machin, tranquille.
Oui.
Donc c'est quand même, comme tu l'as dit, un loisir populaire, pour le coup.
Oui, c'est ça, pour le coup, il y a plus de gens qui pratiquent le loisir qui pratiquent le sport en compétition.
C'est ça. Et le combien ça coûte? Ça coûte. Bah, ça cut dans votre budget, évidemment, mais combien ça coûte?
Combien ça coûte?
Voilà.
Donc je pense que ça coûte assez cher.
Alors ça dépend, ça peut aller jusqu'à du 5000 euros avec les déplacements, effectivement, quand vous êtes professionnel.
Mais même si... le matériel, les patins, ça doit valoir cher quand même.
Les patins, c'est de 75 à 350 euros.
Ouais.
Des cours, en moyenne, sur la région parisienne, c'est du 40 euros le cours de patinage.
Le cours,
ouais, tout à fait. Et enfin, 21-50 euros la licence. Après, il y a les déplacements, ça ne vous donne pas le prix du club dans lequel vous êtes affilié qui donne effectivement accès à parfois à des cours directement ou à des entraînements. Donc ça coûte un petit billet, c'est à peu près 300 euros l'année, si vous voulez en faire sérieusement. Et ça peut aller jusqu'à du 5000 ou plus parce qu'il faut se déplacer.
C'est un peu comme tu avais fait ton émission sur le tennis, en fait. Il faut que les parents ils se déplacent pour amener les enfants en compétition et tout ça. Donc oui, c'est un sport qui coûte cher en termes de déplacement et d'équipement. Parce que si tu commences à faire de la compétition, si tu dois mettre 350 euros dans une paire de patins, ouais, c'est pas donné.
Bah, c'est exactement ça.
Et puis en plus, comme il est enfant, bah, ton patin, tu le renouvelles quand même assez souvent.
Mmh.
Parce qu'il grandit.
Eh bien oui, la pointure.
Oui.
Mais c'est exactement ce que tu as dit. Comme dans le tennis, effectivement, les parents doivent emmener les marmots sur les concours régionaux et autres. Donc forcément, soit il y a un niveau qui est pris en charge par un club. Et donc c'est le club qui affrète le car, prend les enfants, etc., prend une partie en charge. Soit effectivement, le parent doit tout gérer tout seul.
Si ça reste sur le territoire, je pense que c'est possible. Mais si jamais tu sors du territoire, ça devient un peu plus compliqué.
Voilà, si ça veut faire une compète junior, pas forcément hyper connue, mais au Japon, oui, il faut que tu payes tout et tout. Et c'est là où ça devient très, 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 très cher. D'où le fait que le patinage soit un sport qu'on dit, comme pour le tennis, pour des gens aisés, mais aussi c'est le parent qui va vous suivre, c'est pas les deux si vous n'avez pas les moyens, et celui qui va vous suivre va devoir vraiment prendre des jours spécifiques pour vous suivre pour les compétitions si vous voyagez. Donc c'est vraiment un gros investissement en fait. Tous les parents ne sont pas libres, malheureusement, mais on les embrasse. Parce qu'ils vont quand même, le dimanche, aller regarder leur enfant jouer. Et ça, c'est bien.
Pas que le dimanche.
Oui, c'est vrai. Quand on a un parent, on fait tout. Les parents qui nous écoutent le savent. Alors du coup, Souria Bonaly, icône du patinage artistique français, qui a évolué dans les années 80 jusqu'à fin des années 90, à peu près 10 ans de carrière. Du coup, un palmarès assez impressionnant. Est-ce que tu as quelque chose sur son palmarès ?
Ah oui, j'ai noté des choses.
Ah, vas-y, régale-moi.
Elle est 9 fois championne de France en solo, de 1989 à 1997.
Tu peux redire combien de fois ?
9.
Ah oui, quand même.
9 fois championne de France en solo. Mmh. Ensuite, elle a été une fois championne de France en couple en 1989 avec Benoît Vandenberg.
Tout à fait.
Avec qui elle était en couple ?
Ah, je ne savais pas qu'elle était en couple avec lui.
Je ne sais pas combien de temps ils sont ensemble, mais dans les recherches que j'ai vues, visiblement, ils ont été en couple.
D'accord.
Donc ça, c'était en 89. Ensuite, elle a eu 16 médailles pour le Grand Prix Issu, donc ce que tu avais dit, l'anagramme de leur fédération, en fait.
Exactement.
Dont 10 en or. Donc sur les 16, elle en a 10 en or.
Pas mal.
Ensuite, elle a eu 5 titres de championne d'Europe en 91, 92, 93, 94, 95. Et en 1996, elle a fini deuxième.
Ouais.
Ensuite, elle a eu 3 médailles au championnat du monde junior. Donc, elle a été 3e en 89, 2e en 90 et 1e en 91.
Ça, c'est la courbe ascendante, tu vois, quand tu montes de niveau.
Ouais, c'est ça. Chaque année, tu prends le truc. T'évolues à chaque fois. Ensuite, elle a eu 3 médailles d'argent au championnat du monde senior. Mm-hmm. Donc 93, 94 et 95. Et elle a eu 3 participations aux Jeux Olympiques en 92, 94 et 98. Et ensuite, elle a eu 2 médailles mondiales, en tumbling.
Alors, c'est quoi le tumbling ?
Alors, j'ai cherché parce que je ne savais pas.
Qu'est-ce que le tumbling ?
Mais en fait, c'est du saut et c'est... comment expliquer ça ? C'est sur un terrain qui est tout en long et du coup, ils partent et ils font que des sauts arrière ou de choses comme ça. En fait, c'est que des épreuves de saut.
D'accord. Ok, ça rebondit. Touk, touk, touk.
C'est ça. Et du coup, elle a eu 2 médailles mondiales.
Merci pour le palmarès. Allez, il faut savoir qu'elle est connue, évidemment, pour être une acharnée de la vie.
Ah, clairement.
Parce que c'est une compétitrice de ouf. Chose importante, là où elle va être plus connue dans les médias, c'est pour 2 événements. Lillehammer 94 et sa médaille d'argent. Donc... Non, pardon, championnat du monde au Japon, à Chiba. Le championnat du monde à Chiba.
S'est fait voler sa médaille.
Voilà.
Où elle a pleuré sur le podium, c'est ça ?
Exactement. Ouais. En fait, Souria Bonaly va arriver deuxième de ce fameux concours. Le truc, c'est que la japonaise qui est en face d'elle joue à domicile. Son père étant un grand patineur, la rumeur, qui n'a jamais été prouvée, est que les juges ont favorisé la japonaise plutôt qu'elle. Elle a sa petite combinaison rose. Vous pouvez taper sur Internet Souria Bonaly Shiba. Vous pouvez tomber dessus. Et effectivement, elle va faire quelque chose de ouf. C'est que lors de la remise des médailles, elle ne va pas vouloir venir. Elle va mettre beaucoup de temps à venir. Ce qui est, pour le protocole, très rare, surtout au Japon, où ils sont très dans l'étiquette. Elle va pleurer, prendre sa médaille, la retirer tout de suite et partir. Ça va lui rester vraiment en travers de la gorge. Et avec les juges, déjà que c'était pas fou, bah, ça ne reviendra jamais. Elle est connue pour un deuxième truc, évidemment.
Mais il y a une juge qui a pris parti pour elle et qui a dit qu'effectivement, c'était pas juste. Et elle a donné une explication plus ou moins... sur des faits et tout ça, concernant cette compétition. Et effectivement, elle-même, elle a dit que c'était pas justifié et qu'elle aurait dû avoir, ne serait-ce que là, dans cette compétition-là, et surtout aux Jeux Olympiques, elle aurait dû remporter des médailles, au moins une médaille en or.
Elle n'a jamais eu de médaille olympique tout court.
Oui, oui.
Elle est toujours avec quatrième, ce qui est un scandale.
Oui, c'est pour ça que cette juge-là, en fait, elle a repris un peu toutes les compétitions sur lesquelles elle aurait dû avoir une médaille et que du coup, elle se l'est fait... volée, entre guillemets, par quelqu'un, surtout aux Jeux Olympiques, où en fait, elle a repris les programmes, son programme à elle, plus le programme de la gagnante. Et en fait, en termes de figure, Souria en a fait beaucoup plus que celle d'après. Donc, en termes de notes, elle aurait dû avoir des notes beaucoup plus hautes, parce que la difficulté était beaucoup... Enfin, c'est pas un peu, c'est vraiment beaucoup plus dur. Elle a fait beaucoup plus de figures. Je ne sais plus exactement, je l'ai lu, mais je ne me souviens plus. Je crois que celle qui a gagné, elle a peut-être en faire 6. Et Souria, elle en était à 8-9, hein, oui. Tu vois, il y a une sacrée différence en termes, bah, parce que c'est dur pour le coup de les placer, les figures. Oui. Et en fait, elle a dit que oui, elle aurait dû minimum avoir une médaille, si ce n'est deux.
Oui, clairement, tout au long de sa carrière, d'ailleurs, elle va être la première à proposer des figures nouvelles, systématiquement.
Ah oui. Elle a avant-gardiste là-dedans, oui.
Elle va proposer quasiment tout le temps, j'ai la liste quelque part, mais elle ne fait que ça. C'est-à-dire que dès qu'elle fait un tournoi, elle propose... Il y avait le double Axel qui existait, je vous donne un exemple, elle fait le triple. Il y avait telle figure qui existait, elle fait un quadruple. Et en fait, elle va sans cesse proposer des figures systématiquement, tout au long de sa carrière, ce qui fait que c'est vraiment la reine sans couronne, puisque à chaque démonstration de concours, elle rapporte des choses nouvelles, techniquement en plus, mais... pas de récompensé.
Mais sais-tu pourquoi elle avait ce côté à faire des figures ?
Non.
Parce qu'elle vient de la gymnastique.
Ah !
En fait, quand elle a commencé la compétition de patinage, elle était à la fois en train de faire de la gymnastique. Et il a fallu qu'elle fasse un choix, et le choix, il a été vite fait, parce que c'est suite à un désaccord avec son entraîneur de gymnastique, elle a choisi le patinage.
D'accord.
Mais sinon, elle faisait de la gymnastique à côté. C'est pour ça qu'elle avait un peu cette stature et cette musculature.
Ses cuisses.
Mais sa maman était prof de sport, je pense que ça doit aider.
Oui. Sa maman l'a beaucoup poussé à faire ça. Et effectivement, on en parlera dans la troisième partie, mais effectivement, Monsieur Candeloro Philippe, le placé qu'effectivement, le fait que sa mère entraîne Souria, c'était quelque chose dans le patinage qui était mal pris. Et que lui venait d'un milieu modeste également, c'était mal pris. Que le milieu du patinage n'est pas forcément très ouvert à cette époque-là.
Ouais. Bon, je ne sais pas si ça l'est tout autant aujourd'hui, mais...
J'espère, mais effectivement, pas sûr. Et elle est connue aussi en 98, parce qu'en 98, elle a tellement le seum sur les juges qui ne la récompensent pas sur le mérite qu'elle a de mettre des figures, etc., systématiquement. Elle va faire sa fameuse figure.
Son salto.
Exactement. On est en 98, et là, contre toute attente, elle fait un salto sur la glace. Alors, chose qu'elle maîtrise depuis qu'elle a l'âge de 13 ans.
Mais son salto arrêt, elle l'a fait en première fois dans une compétition en 86.
Voilà.
Donc oui, elle le maîtrise, clairement.
Et du coup, elle dit, si les juges y m'aiment pas, et qu'à chaque fois je rajoute, je ne savais pas, tu vois, avec le puzzle, c'est fou. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, à chaque fois je rajoute un triple axel, une vrille coupée, un machin, on ne me récompense pas, eh ben je fais un salto. Et ça, c'est un pied de nez extraordinaire.
Et bim.
Et ouais, elle fait son salto en 98, elle va énerver les juges, mais bon, comme elle est fâchée avec eux, ça ne va pas changer grand-chose. Mais du coup, par contre, elle est très connue, parce que maintenant, cette figure porte son nom, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, il s'appelle le Bonali.
Voilà.
Et c'est surtout qu'elle l'a modifié au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle le faisait avec les deux pieds, donc ça porte un nom, je crois, c'est carpé ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Après, elle pose qu'un seul pied. Enfin, elle a vraiment fait des variantes à ce Bonali, en fait.
Et du coup, c'est aux Jeux Olympiques de Nagano qu'elle fait ça. Et de 89 à 98, elle ne fait que rajouter des choses. Par exemple, en 91, elle est la première patineuse à tenter une combinaison triple-triple, double-triple-boucle-piqué, triple-boucle-piqué, double-boucle-piqué, exemple. En 92, première patineuse à faire une combinaison triple-salcho, c'est une figure particulière avec triple-boucle-piqué. Bref, elle fait ça sans cesse, en fait. À chaque championnat, elle rajoute.
En fait, c'est surtout que par rapport au programme des autres, elle rajoute soit... Par exemple, il y en a, ils vont faire dans les figures imposées, ça va être du double machin piqué, là, j'ai plus ton truc.
Oui, triple piqué.
Et en fait,
piqué.
Elle va rajouter soit un demi-tour en plus, soit un tour en plus. Elle va toujours essayer de mettre la barre plus haut.
Exact. Et après, effectivement, elle va partir à Las Vegas pour devenir entraîneuse de patins. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui.
Alors... Oui, c'est pour ça qu'elle a obtenu la nationalité en 2004, parce que pour le coup, ouais, elle vit à Las Vegas et... Et du coup, elle a pris la nationalité. Mais elle l'a dit, en fait, elle a pris la nationalité américaine en 2004. Elle voulait finir sa carrière à Paris, enfin, en région parisienne, en France. Mm-hmm. Mais en fait, elle, ça ne s'est simplement pas fait parce que selon elle, elle ne rentrait pas dans les codes. Donc, elle est simplement partie et changée de pays.
Et on peut quand même placer que depuis 2018, elle a la Légion d'honneur. Ce qui n'est pas rien.
Oui.
C'est beau. Elle a fait plein de choses aussi en interview. On parle souvent de son parcours, effectivement. Et ce qui revient souvent, c'est qu'elle n'a pas eu le palmarès à la hauteur de son talent.
Mais on fait encore plein de choses maintenant. Il y a eu un sondage qui a été fait le 8 mars 2019. Un sondage fait pour savoir quels sont les sportives françaises préférées qui sont à la retraite pour les Français. Elle apparaît quand même en 7e position.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Bon, écoute, je ne sais pas sur combien c'était, mais 7e, c'est plutôt pas mal.
Oh, c'est pas mal du tout.
Après, elle est ambassadrice de plein de choses. Elle est marraine de PETA. Mmh. Elle est membre du Conseil fédéral français des sports de glace. Elle a été ambassadrice de l'association La France des talents et des couleurs. Donc, en fait, elle continue à côté de ça, dans son militantisme, en fait.
Elle fait beaucoup, beaucoup de... Et surtout qu'elle est au State, c'est pas pour rien non plus. Elle milite beaucoup, justement, contre le racisme et contre les discriminations.
Ouais.
Et ça, franchement, c'est top pour une carrière comme ça.
Je pense qu'elle a pris le contre-pied de ce qu'elle avait vécu pour essayer de que ça n'arrive pas à d'autres.
Exactement. Et du coup, on va en parler dans la troisième partie. Puisque là, ça va être le moment d'écouter un peu de musique. Et c'est toi qui as choisi de nous parler de ce morceau juste après. Maestro, s'il vous plaît.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. I would be complex. I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. In the work, they wouldn't shake their heads and question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me, or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can. If I'd get there quicker if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again. Cause if I was a man, then I'd be the man. I'd be the man. I'd be the man. What's it like to brag about raking in dollars and getting bitches and models? And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. Was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a bother. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can. Wondering if I'd get there quicker if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again. Coming at me again. Cause if I was a man, if I was a man, then I'd be the man. Then I'd be the man. I'm so sick of running as fast as I can.
Et bonjour à nouveau auditrices, auditeurs, nous sommes toujours sur 93.1 à YFM, je suis toujours Cad, l'homme du 92, vous êtes bien dans l'émission championne. Aujourd'hui nous continuons de parler des femmes qui cassent la baraque sans casser un ongle, ou presque. Ouais, je la refais, je la recycle de la semaine dernière.
Elle est bien, t'as raison.
Voilà. Pour m'accompagner, j'ai toujours Sandrine avec moi. Ça va Sandrine ?
Ça va et toi ?
Très bien, et comme la tradition, jamais de sobriquet sur la troisième partie. C'est important.
T'as-tu l'oublié une fois quand t'as écrit ton truc et maintenant tu penses que c'est un...
Tout ça en gimmick, moi j'aime bien, ouais, il y a une petite habitude. Alors maintenant on va parler de plusieurs choses de façon libre, effectivement, et surtout on va parler des préjugés et la discrimination, diversité dans le sport, puisque on vient de parler de Souria Bonali, seule ou presque dans le patinage à son époque.
Écoute, je crois que c'était bien la seule à son époque. Hein.
Moi, c'était la seule Renoir que j'ai de souvenir à son époque. Après, je sais que grâce à elle, elle a inspiré d'autres jeunes.
Oui, ça c'est
top. Qui ont fait, mais c'est vraiment la pionnière sur le sujet. Hein.
Et puis, comme je te disais, là, le fait qu'elle soit ambassadrice de l'association La France des Talents et des Couleurs, elle lutte contre ça et donc elle a créé une association pour ça et donc je pense qu'elle veut tout faire pour qu'il y en ait d'autres parce que Enfin, c'est très bien qu'il y en ait
d'autres. Bah oui, surtout que ça n'a absolument aucun sens de discriminer les gens sur leur origine, encore moins sur leur couleur. Donc, Souria Bonaly, malgré ses performances, a souvent été sous-évalué par les juges. Son style athlétique, grâce à la gymnastique, déjà, elle rentrait pas dans les codes. Elle n'était pas filiforme, tu vois. Elle avait ce côté un peu musclé, qui, en fait, bah, est très utile quand tu veux faire des figures. Donc, en fait, ça va avec ta perf. Je voyais pas où est le problème, moi, personnellement.
Mais c'est surtout que, pour le coup, si tu vois bien, si elle était capable de faire des figures comme les autres, mais de façon très améliorée, et d'inventer des choses, et de faire mieux que les autres, c'est parce que, justement, je pense qu'elle avait cette capacité, et qu'elle avait ce corps, en fait, qui lui permettait d'avoir plus de puissance dans les jambes et ce genre de choses.
C'est exactement ça. Puisque d'habitude, on a ce côté canon esthétique traditionnel du patinage, privilégiant la grâce et la fluidité. Mais elle a révolutionné son sport en mettant de plus en plus loin la partie technique, en fait. De plus en plus loin de faire des figures. En fait, son sport a évolué grâce à elle, mais elle n'en a jamais été récompensée sur ce sujet-là. Sa divergence... et les tensions, notamment en 94, où elle a la médaille d'argent à Chiba, où elle ne monte pas sur le podium, malgré une performance technique supérieure, elle a été classée deuxième, face à Yuka Sato, j'avais pas son nom tout à l'heure, et pour se venger aux Jeux Olympiques de Nagano 98, elle exécutera son fameux saut périlleux, et pourtant, c'est l'une des rares patineuses noires à avoir atteint un tel niveau dans le patinage artistique, elle a ouvert la voie à d'autres athlètes de couleur, inspirant notamment la patineuse comme Maë Bérénice Meïté. Aujourd'hui, elle entraîne de jeunes talents aux États-Unis, transmettant son expérience et son engagement pour une plus grande diversité dans le sport. Quand tu me disais, elle était engagée à travers des associations.
Mais je trouve ça dommage que du coup, elle ait dû s'exporter carrément aux États-Unis pour entraîner des jeunes espoirs à cette discipline, alors qu'elle aurait pu, si on lui avait donné l'opportunité, le faire en France et que justement, il y ait... Parce que depuis Candeloro et elle, j'ai pas en tête des patineurs ou des patineuses qui ont fait un palmarès comme le leur, en tout cas sur le où on se rappelle des années après. Et je trouve ça vraiment dommage et triste qu'on ait perdu une si grande athlète qui aurait pu entraîner des gens chez nous pour qu'elle représente la France, quoi.
Oui, surtout que dans ces moments-là, c'est un point de référence. Comme on le dit souvent sur le sport féminin, si t'as pas forcément d'exemple,
clairement.
Tu te dis c'est pas forcément pour moi. Alors que n'importe quelle joueuse professionnelle de n'importe quel sport va te citer un exemple très souvent, quand parce que le sport féminin est jeune au final, va très souvent te sortir un athlète masculin en référence, alors que c'est pas grave en fait, ça ne les dérange pas, il n'y a pas de comparaison, comme on l'a dit la semaine dernière. Ouais. Une fille quand elle joue, c'est pas pour jouer mieux qu'un mec, c'est juste pour gagner. Hein.
Ah oui, elle quand elle est passionnée par son sport, elle ne voit pas la différence en fait, elle fait son sport et elle vient, elle donne le meilleur. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, mais au moins elle va y aller pour gagner. Mais après, si elle perd, c'est pas grave. Elle sait reconnaître que pour le coup, il y en a qui ont été plus fortes que elle sur le coup. Mais oui, pour le coup, enfin, que ça soit un mec. En fait, quand t'as pas la possibilité d'avoir une icône et d'avoir une référence dans le sport que t'as envie de faire parce qu'il est pas ouvert ou à la partie féminine ou bien parce que tu le vois pas à la télé parce que c'est pas retransmis, t'as pas d'autre choix que de choisir un mec en termes de référence c'est par ça. Rapport au sport. Mais ça t'empêche pas de le faire toi à ta façon en tant que nana et d'être fière de ce que tu fais.
C'est ça. Et en fait, là où je trouve ce qui est ironique, c'est qu'on voit bien que peu importe. Le genre, la couleur, l'âge, quand il y a une icône, c'est une icône.
Ouais.
Elle parle à tout le monde. Et en fait, que ce soit une fille ou une meuf, il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui font des sports parce que tu demandes à énormément de filles qui font du foot aujourd'hui en pro. Je pense qu'elles vont te citer, si elles sont jeunes, si elles sont nées dans les années 2000, elles vont te citer Messi, Cristiano Ronaldo. Mais elles ne vont pas se poser la question est-ce que c'est un garçon, elles vont dire juste c'est juste le meilleur. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'être la meilleure. Et en fait, cette façon de penser dans le sport, elle est hyper saine, mais t'as toujours des gens qui essaient de la détourner, tu vois. C'est comme tu me disais hier, et je voulais te lancer là-dessus, quand t'es un enfant, tu fais pas de différence.
Non, non.
Tu te poses pas la question. En fait.
Mais en fait, je te dis que... Après, ça revient sur plein de sujets, peu importe si c'est pas le sport ou autre chose, mais quand t'es une femme et que t'as envie de faire quelque chose et que potentiellement t'as pas ce retour d'avoir en face de toi quelqu'un qui fait ce que t'as envie de faire et que potentiellement ça peut te lancer, nous on n'a pas besoin de ce genre de choses parce qu'en fait ça n'existe pas ou ce n'est pas représentatif, que ce soit pour une question pour des personnes de couleur ou un genre féminin, si ça n'existe pas, c'est pas grave, on va se baser sur autre chose et c'est pas grave, ça va pas nous permettre d'avancer, on n'a pas besoin de ça pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire.
Voilà. Et en fait, c'est là où tu vois que bah, y a pas de différence. Et moi, je trouve très dommage qu'on ait perdu ce symbole de Souria Bonaly dans le patinage français.
Ah oui, clairement.
Parce que ça aurait pu débloquer plein de choses. Mais elle existe quand même. Il y a juste à se renseigner. Et d'ailleurs, j'ai d'autres exemples. Parce que justement, je suis parti chercher des athlètes qui sont un peu seuls dans leur sport pour la raison de la couleur. Et par exemple, j'ai pris Lewis Hamilton. Ultra champion du monde. Hein, Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde de Formule 1. Il est tout seul. Voilà. Et avant lui, il faut remonter. Véridique, hein, je pars chercher, à William Theodore Ribbs Jr., qui est connu pour être le premier afro-américain à avoir piloté une Formule 1 lors d'essais privés à Brabham en 1986. Essais privés, 1986.
Ouais, non,
mais... Ça n'a pas de sens.
Non.
Le gars, il a le niveau, quoi.
Donc... C'est surtout qu'il n'a plus rien à prouver maintenant, enfin...
Et c'est aussi pour ça que Lewis Hamilton s'est beaucoup engagé contre le racisme. Parce qu'il l'a dit lui-même que dans la Formule 1, elle n'a pas vraiment été acceptée. Et donc, du coup, il lutte beaucoup pour ça. Les sœurs Williams au tennis, c'est la même chose.
Ouais.
Avant les sœurs Williams, il y avait quelqu'un. Et pareil, on ne l'a pas médiatisé, je trouve ça fou. Eh bien, c'est Althea Gibson, née en 1927 en Caroline du Sud, au cœur de l'Amérique ségrégationniste. C'est très important. On l'a surnommée Ali. En 1956, elle est la première joueuse noire pro à gagner Roland-Garros.
Mais c'est génial.
C'est une dinguerie.
C'est fou qu'on en parle plus, en fait.
Elle se retire en devenant numéro 1 mondial en 1964 et devient la première joueuse de golf noire de l'histoire.
C'est génial.
C'est une dinguerie ou pas? Il y a des exemples.
Mais en fait, tu es en train de me parler déjà de trois sports où, en fait, c'est des sports considérés pour la haute société.
Exactement, pour les
riches. Oui, parce que la Formule 1, tu n'arrives pas comme ça avec une voiture valant le prix qu'elle vaut, qu'on te laisse la conduire. Le patinage et le tennis, on a déjà dit, c'est un sport potentiellement qui peut coûter cher. Mmh. Et en fait... Ouais, c'est l'impression qu'ils sont arrivés là et que limite, il faudrait qu'ils soient contents qu'ils soient là. Mais non, en fait, ils existent, ils sont là, ils ont envie de prendre de la place et d'en faire venir d'autres et c'est normal.
Et c'est des symboles. Par exemple, pareil, si on prend le premier joueur afro-américain à gagner l'US Open en 1970, c'est Arthur Ashe. Il gagne...
C'est tennis.
Ouais, tout à fait. Pardon, l'US Open, il le gagne en 1968. En 1970, il gagne l'Open d'Australie. En 1975, il gagne Wimbledon. Il n'aura jamais gagné Roland-Garros, mais il sera très très proche d'un jeune Français d'origine camerounaise qui, en 1983, gagne Roland-Garros. Monsieur Yannick Noah. Et Yannick Noah n'est pas qu'un chanteur, mesdames et messieurs. C'est aussi un très grand tennisman.
Oui, je pense que la nouvelle génération a oublié que, du coup, il a joué au tennis, effectivement, avec sa danse là sur le terrain.
C'est ça. Et du coup, grâce à lui, voilà, exemple, représentation, on a eu derrière du Gaël mon fils, du Joe Wilfried son gars. Oui, je t'oublie pas pour le Kinder Bueno, mon cher Wilfried, je ne t'oublie pas. Mais voilà, en fait, il faut incarner par un exemple pour pouvoir avoir cette façon de se dire « je peux aussi le faire ». Comme tu l'as dit, c'est des sports qui sont pas forcément accessibles, qui sont quand même... tous les gens sont pas forcément aisés ou vont pas se dire. Mais en fait, c'est la barrière de se dire « est-ce que je peux le faire ou pas ?» Et quand tu as un exemple qui te ressemble, la barrière du prix, elle part, en fait. Tu dis, si lui est arrivé, je peux le faire, en fait.
Oui, mais je te dis, je comprends ton principe, mais c'est juste que comme nous, ça n'existe pas en tant que... Parce que pour le coup, là, tu es en train de parler de sport et tu es en train de parler... Ce qui est un départ de marais de ouf, et je suis totalement d'accord, il faut en parler. Mais là, tu es en train de me parler que d'hommes. Et en fait, Souria, elle avait les deux choses. C'est-à-dire qu'elle avait ce genre qui remettait en perspective sa couleur et en plus son genre. Donc, ça faisait, pour le coup, la pauvre, c'était double sanction.
Ouais, double peine. Mais aujourd'hui, Serena Williams, 23 grands chelems.
Oui.
Et Serena Williams, c'est la reine du tennis.
Je suis totalement d'accord avec toi, sauf que je pense que là, c'est encore une autre façon de penser qui est peut-être un peu plus... Enfin, c'est les États-Unis, c'est un peu particulier. À partir du moment où ils savent qu'ils peuvent faire du fric sur toi, je pense qu'ils ont misé sur elle. Et pour le coup, à l'époque, peut-être qu'en France, on n'a pas... Et parce que c'était peut-être le personnage artistique aussi, je ne sais pas. Peut-être que tout ça a fait que...
Mais aussi pour te répondre, comme le sport féminin est jeune, on a moins ce genre de données. C'est pour ça que je parle plus de garçons. Tu vois, par exemple, on a parlé d'Althea Gibson il y a deux secondes. J'ai jamais entendu parler de cette dame, tu vois.
Alors que, waouh.
C'est une dinguerie.
Surtout qu'à cette époque-là, le sport devait être assez compliqué. Ouais. Le matériel n'était pas le même.
C'est ça.
Ça devait être...
Puis politiquement, ça voulait dire quelque chose beaucoup plus qu'aujourd'hui, je trouve. Ouais. Donc, effectivement, c'est pour ça. D'ailleurs, j'ai des données sur ce sujet, encore une fois, pour les garçons, parce que c'est les seuls trucs qui sont quantifiables pour le moment, on va dire. C'est une stat que je trouvais très intéressante. Aujourd'hui, il y a la Ligue 1. La Ligue 1, c'est quoi? C'est le championnat de foot français. D'accord. Il y a 18 équipes. Sur cette saison en cours, d'après toi, combien parmi eux sont des gens issus de la diversité? Voilà.
pour la saison là actuelle.
Ouais, 18 entraîneurs. Combien on a?
18 entraîneurs, je pense qu'il y en a peut-être un ou deux.
Bah, t'es sévère, mais on n'est pas loin. Il n'y en a que 5.
Ouais, mais...
5 sur 18. On a Antoine Camboire au FC Nantes, on a Habib Bey au Stade Rennais, on a Zoumana Camara qui a pris Montpellier il n'y a pas longtemps, Zamba Diawara qui est au Stade de Reims qui a remplacé il y avait quelqu'un avant, je crois. Bref, et Liam Rosenior qui lui est d'origine anglaise. Voilà, c'est tout. Si on prend la NBA, c'est le même constat. La NBA qui est un sport principalement...
Ne me demande pas, je ne regarde pas la NBA, je ne serais pas capable de te répondre.
Mais si tu penses NBA, tu penses LeBron James, Steph Curry et tout, tu vois. Et en fait, dans la NBA, tu as 30 équipes. Okay. Donc, okay. On ne peut pas dire que sur le terrain, ce soit, on va dire, très... Enfin, c'est que des Afro-Américains, voilà. Et donc, tu te dis, les entraîneurs aussi. Bah, faux. Sur 30 franchises, ils sont que 6. Donc, il y a vraiment un truc qui est fou.
C'est dingue. Ça veut dire que ceux qui sont entraîneurs de ces équipes de basket et qui sont majoritairement blancs dans ce que tu es en train de me dire, potentiellement, eux, ils ont déjà joué au basket?
Ouais.
Mais alors, enfin, si tu me dis qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains dans l'NBA et qu'en fait, donc ils devaient être représentatifs de très peu, parce que
c'est
en fait, on va choisir de mettre cette personne-là plutôt que de mettre quelqu'un qui a eu une carrière immense et du fait que juste il n'a pas la bonne couleur.
C'est exactement ça. Et au States, c'est très très fou parce que tu as 30 franchises et tu n'as que 6 entraîneurs en fait.
Alors,
ça tourne un peu, mais c'est pas. Enfin, on est à 20%. Voilà. Et c'est un fait. Et en fait, il le disait, il y a beaucoup de sportifs. D'ailleurs, il y a eu tout un sujet autour de Clarence Seedorf, qui est un grand joueur de foot hollandais, qui est un Renois, en fait, et qui avait des problèmes pour trouver un club pour entraîner.
Ah, pardon, quand tu me parles de ça, je pense le mec qui avait des lunettes, c'était pas lui.
C'est Edgar Davis, celui-là.
Ah, ok.
Et du coup, le truc, c'est pourquoi la polémique, elle a enflé, parce qu'en fait, on s'est aperçu que même en Angleterre, moins de 4% des entraîneurs professionnels sur toute la ligue sont des Renois. Ce qui n'a aucun sens! Le foot, c'est populaire. Le foot, c'est pour tout le monde. Ça n'a aucun sens.
Oui, je suis d'accord. C'est devenu populaire avec tout le monde. Tu prends un ballon, tu joues dans la rue. Voilà, quoi. C'est pas un sport qui est difficile à pratiquer.
Et en fait, il y a un manque de représentation complètement ouf. C'est comme si on disait aux gens, t'as la bonne couleur pour jouer, t'as la bonne origine pour jouer. Tu peux être un joueur, mais tu peux pas être entraîneur, tu peux pas être président de club, tu peux pas être dans les instances. Ce qui n'a absolument aucun sens. Puisque c'est des gens qui ont l'expérience, en fait, du sport. Donc ça, c'est un truc qui est assez révoltant. Vous pouvez regarder, il y a plein de stats là-dessus. Et après, si vous posez la question pourquoi il y a beaucoup d'Afro-Américains dans la NBA, bah c'est très simple. Il faut savoir qu'ils ont un système de sport-études. C'est-à-dire que là-bas, comme vous ne pouvez pas forcément payer une fac à 150 000 ou 200 000 dollars, vous utilisez le sport pour avoir une carrière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains et d'Hispaniques qui sont dans le baseball, qui sont dans le foot américain, etc. Donc littéralement, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de classe, point. Plus vous allez être peu aisé, plus le sport va devenir une solution pour vous en sortir dans la vie. Parce que vous n'aurez pas forcément l'argent pour faire des études d'avocat ou de médecin.
Oui, clairement.
Et en fait, tout revenir à la couleur ou l'origine m'agace personnellement. Parce qu'en fait, c'est juste une question de moyens. Ça n'a rien à voir. C'est tout. Donc voilà. Donc là...
Et on avait parlé de ça parce que pour le coup, elle en a souffert.
Exactement.
Et elle se bat maintenant pour que ça change et que ça n'arrive plus. Et donc, elle fait plein de choses. Et je trouve ça dommage qu'elle a prouvé son énorme talent. Et pardon, mais mince, elle aurait pu ramener tellement de médailles à la France. Mais pourquoi on ne l'a pas permis de le faire? C'est une athlète qui a marqué l'histoire. On se souvient tous de son nom. Elle est appréciée pour son parcours, pour tout ce qu'elle nous a donné. Et elle a apporté tellement la discipline que mince, je trouve ça tellement dommage qu'on s'arrête juste au fait de son genre et de sa couleur. Enfin, c'est tellement...
C'est petit et inutile.
Vraiment.
Mais moi, j'aime beaucoup Souria Bonaly. Je rappelle qu'elle est française. Je leur dis encore une fois, française, vive la France. Ça me fait plaisir.
Et j'avais oublié juste un fait, pour la session 2024-2025, du coup, l'issue, la
International Skate Union, oui,
c'est ça. Elle a permis, à partir de 2024-2025, que le fameux Bonaly puisse faire partie des compétitions.
Alors, le fameux Bonaly, c'est sa fameuse...
Son salto. Là, ils ont dit, c'est bon, hein, vous pouvez le faire dans la compétition. Donc, ça évolue pas beaucoup, mais au moins, ça la met un peu en... C'est limite que j'ai l'impression qu'ils ont fait ça un peu pour l'excuse, mais ça permet justement aux athlètes peut-être de se dire, bon, on va pouvoir prendre exemple sur elle et pour le coup, y aller et essayer, quoi.
D'ailleurs, ça fait des années qu'elle court après un biopic. Elle aimerait avoir un biopic pour raconter son histoire.
Mais je crois que c'était en préparation. J'avais lu qu'ils essayaient de faire...
Ils voulaient faire une mini-série, mais ils ne l'ont pas vraiment faite.
C'était TF1 qui voulait faire un
moment. Ouais, voilà. Bon, après, il y a d'autres projets. Mais c'est vrai qu'un biopic sur elle, ce serait hyper intéressant.
Ce serait génial. Mais un biopic réel, avec vraiment ce qu'elle a vécu et avec ce qu'elle a ressenti pour mettre en évidence les choses qui ont été faites et les choses qui sont intolérables et qu'il ne faut plus qu'elles soient faites, en fait.
Je suis complètement d'accord. Je ne sais pas mieux. Et ça tombe très bien. Nous concluons. Voilà. On arrive à la conclusion. Alors, merci Sandrine d'être venue ce soir.
Je t'en prie.
Ça t'a plu ?
Ouais, c'était cool.
Ah, cool. Merci à Diego Armando Maradona, à la régie évidemment. Merci à vous, auditrices, auditeurs. Merci à Ligue FM. Alors, si vous voulez suivre Championne, vous allez sur Instagram, vous tapez Championne de l'émission, vous tomberez sur Instagram et vous pourrez nous envoyer peut-être des vrais messages. Du coup, si vous voulez suivre le patinage, vous avez la Fédération Française de Glace, la FF Sport de Glace, qui est le compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre les deux patineurs français, Adam Siao, qui est un patineur français très bon, et Léa Serna aussi. Et bien sûr, la PETA, qui est très importante à suivre, parce que c'est pour les animaux.
Et dont elle est marraine.
Exactement. Et enfin, si vous aimez les quiz de foot, allez sur la page Facebook Quiz de foot. Voilà, c'est fait, je la réclame faite. Eh bien, merci beaucoup de votre moment, votre attention. Vive la France, vive le sport. Le mot de la fin.
Est-ce que je parodie quelqu'un ou pas ?
Oui, tu peux.
Ok, fin.
Et voilà, musique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.